Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Crésus, la radio qui vous aide, la radio qui vous écoute. Une nouvelle émission aujourd'hui qui présente des témoignages de personnes accompagnées par Crésus, des personnes en situation de difficulté financière, des personnes qui souhaitent s'exprimer et nous dire effectivement comment elles ont pu surmonter les obstacles, ces obstacles financiers. Avec nous aujourd'hui, Maître Thierry Edmond.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Maître Edmond, donc, qui apportera ses éclairages juridiques sur la question peut-être du surendettement. Mmh. Nous avons également avec nous Marilyn Wächter, responsable juridique de la Chambre de consommation d'Alsace. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Également Jean-Emmanuel Medina, qui est stagiaire avocat à Crésus Alsace.
Bonjour.
Voilà, docteur en droit, qui pourra aussi nous apporter des éclairages juridiques. Voilà, sans tarder, nous allons enchaîner. Nous allons commencer plutôt avec Lisa. Bonjour Lisa.
Oui, bonjour.
Oui, Lisa, vous avez souhaité témoigner sur Radio Crésus.
Oui, effectivement, parce que l'expérience que j'ai vécue et que je suis encore en train de vivre, eh bien, je souhaitais la communiquer aux auditeurs, parce que je pense que on est souvent très très seul dans cette expérience. Ça, c'est une première chose. Donc, pour faire court et long à la fois, j'ai commencé mon surendettement, je crois, il y a très 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 longtemps, en fait. Et c'est un gouffre dans lequel on s'enfonce sans s'en rendre compte. Donc, on commence par des découvertes bancaires qu'on peut pas rattraper. Oui. Voilà. Et surtout, la banque vous laisse vous enfoncer. C'est-à-dire qu'on vous laisse de plus en plus avoir des découvertes bancaires. On ne vous propose aucune solution pour en sortir, avec des intérêts astronomiques. Bon, j'essayais toujours de m'arranger avec mon banquier, etc. Bon, j'ai eu après des soucis de santé, des choses qui ont fait que j'ai été obligée de prendre un crédit, deux crédits. Et puis, on se rend compte que c'est finalement assez facile.
Alors, le crédit voilà. Que vous avez souscrit, les crédits que vous avez souscrits, c'était des solutions pour répondre à vos difficultés pour compenser un découvert bancaire, c'est ça?
Alors,
pour enflouer.
Il y a eu... il y a eu des soucis de santé... dentaires importantes, par exemple,
oui,
qui m'ont coûté très très cher. Je pouvais pas me le permettre. Donc j'ai souscrit à des emprunts, plus les découverts à certains moments donnés pour couvrir effectivement. Je recevais un courrier de la banque. Je prenais peur. C'était un engrenage. Voilà.
Alors, ce qui est important pour nos auditeurs, oui, vous disiez effectivement, ça fait très très longtemps,
oui,
que mon surendettement s'est constitué, c'est fait finalement.
Oui.
C'est très longtemps. Comment? C'est quoi? C'est un an, deux ans, trois ans?
C'est... Ah non, c'est plus que ça. Hein. C'est, je dirais, je sais pas, 15 ans, 20 ans, 15 ans, 20 ans.
D'accord.
La chose importante aussi que je souhaite dire, c'est que je suis quelqu'un qui a... maintenant, je suis à la retraite, hein, depuis 2 mois.
Oui.
Mais j'ai eu un très bon job. Hein, j'avais un très bon salaire.
Oui.
Donc, ça aussi, si vous voulez, c'est... je pouvais avoir les prêts que je voulais. Hein.
Oui.
Donc, c'est crédible quand même.
Oui, alors, justement, c'est important pour nos auditeurs de comprendre aussi, quand vous dites que vous aviez un bon job, un bon salaire,
oui,
c'est à quel niveau? C'est 3 000 euros par mois, 4 000 euros, c'est...
J'avais 4 500 euros par mois.
4 500 euros net?
Oui.
Net par mois.
Dans les derniers temps, hein. Sinon, durant les 20 années, j'étais à 3 500.
D'accord,
voilà.
Oui.
Ça a été entre 3 500 et 4 500. Voilà, donc femme autonome qui se débrouille seule,
oui,
qui ne demande rien à personne.
Oui.
Donc ça aussi, si vous voulez, je pense que ça fait partie de ma problématique. Hein.
Mm-hmm.
Et je pensais toujours que j'allais m'en sortir.
Mm-hmm.
jusqu'au jour où je voyais que je coulais, quoi. J'avais de plus en plus de crédits à rembourser. Et la banque me laissait avoir 6 000 euros de découvert, 6 500 euros de découvert.
Ce qui est énorme.
Énorme.
Ah, c'est... Oui.
C'est-à-dire que quand on dit les conseillers des banques sont là pour en fait vous accompagner, non, ils sont là pour vous laisser dans cette situation, en fait. Hein. J'ai compris ça bien plus tard, parce que j'ai eu beaucoup de rencontres avec le directeur de la banque.
Oui, madame.
Donc, le directeur de la banque, je lui ai proposé de me faire un rachat, de trouver des solutions. Il a toujours refusé.
Oui. Alors peut-être que Maître Edmond va apporter une précision justement sur les relations.
C'est d'abord une petite question parce que donc, si j'ai bien compris, donc pendant une quinzaine d'années, vous avez enchaîné les crédits, c'est bien ça, les crédits à la consommation essentiellement.
Oui.
Voilà.
Oui.
Différents types de crédits, crédits renouvelables également.
Oui.
Oui, également.
C'était pas les plus. De toute façon, je vais vous dire, j'avais 5 crédits hein, au bout. Hein, j'ai 5 crédits. Mmh. Il y avait dedans 2 crédits renouvelables.
D'accord. Et à partir de quel moment il y a eu le déclic vers la prise de conscience du naufrage qui s'étendait de plus en plus pour que vous insériez dans un processus de surendettement
J'ai commencé moi-même à me dire il faut que je renégocie avec. Avec les créanciers les plus chers. Donc, j'ai commencé à appeler CTLM.
Oui.
Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis dans une situation difficile. D'abord, j'ai un crédit revolving. J'ai entendu avec la loi Lagarde que ça pouvait être supprimé et transformé en prêt amortissable. Mmh,
tout à fait.
Voilà. Donc, j'ai fait la même chose avec la BNP qui a refusé. J'avais un prêt revolving de 3 500 euros, ils ont refusé de me le mettre en prêt amortissable.
Mmh.
Et CTLM m'a dit, écoutez, après plusieurs coups de fil, je suis tombée sur un monsieur qui m'a dit, on peut commencer la discussion à condition que vous vous fassiez accompagner par CTLM.
Voilà, que vous ne restiez pas seul.
Crésus.
Par Crésus, tout à fait.
Voilà. Donc, moi, ce monsieur ne m'a rien expliqué. Je ne savais pas qui était Crésus. Mais j'ai dit oui, après tout, pourquoi pas.
Oui.
Et donc j'ai reçu un coup de téléphone de Crésus, et là, on a commencé ensemble à faire le diagnostic de ma situation, et à c'était Mathieu à l'époque, qui m'a organisé ce qu'on appelle, vous appelez
Des intermédiations ou
des paiements de contact, comment
oui, des mensualités de contact.
Voilà,
tout
des
à
mensualités
fait.
De contact. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déterminé ensemble ce que je pouvais payer. Voilà.
Oui, tout à fait.
Donc j'ai fait des courriers, j'ai effectivement proposé des sommes moins importantes, j'ai fait la même chose avec ma banque. On a essayé d'avancer comme ça, et puis j'ai monté mon dossier de surendettement quand même. Il faut que je vous dise quand même dans l'histoire, c'est que l'année d'avant, parce que ça s'est passé l'année dernière, mais l'année précédente, le crédit municipal avait fait la même démarche. Mais pas avec Crésus, avec l'Association Générale des Familles.
L'AGF.
Voilà, l'AGF. Mais alors là, ça a empiré ma situation. Voilà. Donc, c'est pas de la faute de l'association, mais il y a eu des gros malentendus. J'ai monté un dossier de surendettement, je n'ai pas été recevable.
Une question, Lisa. Est-ce que vous étiez surprise d'être orientée par votre banque, finalement un des établissements de crédit vers Crésus.
J'étais surprise, mais effectivement, j'étais surprise. Et il faut que je vous dise aussi, là, je suis très bien, vous m'entendez, je suis sereine, parce que les choses sont vraiment en train de s'arranger, j'ai retrouvé le sommeil. Mais au moment où tout ça s'est passé, moi j'étais encore en activité, j'étais cadre supérieur, et on me disait, madame, vous avez besoin d'un accompagnement bancaire, vous savez pas, ça n'a pas été formulé comme ça, mais il fallait faire preuve vraiment d'humilité en tout cas, pour se remettre en question et se dire, eh ben oui, il faut que je sois aidée. Mmh. Et c'était la vérité, j'avais besoin d'être aidée, je ne pouvais pas comprendre les choses seule.
C'est important ce que vous dites, parce que on a bien compris que vous étiez dans le monde professionnel avec des responsabilités, des compétences reconnues, avérées, et pour autant vous étiez vous-même, pour votre situation personnelle, en difficulté financière.
Tout à fait.
Et il est clair que lorsque un tiers vient vous dire, eh bien, vous avez besoin d'une aide, comme vous le dites, il faut faire preuve d'humilité d'une certaine manière, et aussi accepter d'entendre ce discours. Alors, à Crésus, c'est vrai que ce qui est important et ce qui est fondamental pour nous, c'est de pouvoir dialoguer sans juger.
Là, c'est le deuxième aspect des choses. Ceci dit, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est très important, c'est qu'on fait un diagnostic où on met tout sur la table, parce que quand on est dans ces situations, on n'a pas de visibilité, c'est la politique de l'autruche. On se ment à soi-même en permanence. Et puis surtout, on ne dit rien à personne.
Oui.
L'environnement ne sait rien. À un moment donné, donc, on voit les choses, on voit la vérité en face. Il faut y faire face. Mais on est accompagné par des gens, alors, qui ne vous jugent pas. Effectivement, pour moi, ça a été la grande révélation quand même. Alors là, on m'a dit, oui, madame, vous êtes responsable, mais pas toute seule. Voilà. Vous n'êtes pas la seule responsable.
Tout à fait. Il ne faut pas culpabiliser, absolument pas. Vous n'avez tué personne, agressé personne.
Hein. Oui, non, mais si vous voulez...
Le regard de la société, il ne faut pas trop s'y attarder. Pensez d'abord à résoudre votre situation. Justement, par rapport à cette question, où est-ce que vous en êtes dans la procédure de surendettement? Donc, le dossier a été déposé, et ensuite?
Alors, je suis recevable.
Oui, et maintenant, vous en êtes où?
Voilà, donc maintenant, on m'a proposé un plan.
Oui.
Sur 18 mois, parce que j'avais une participation dans une petite maison de campagne en indivision.
Oui.
Ça sera pas grand-chose, mais je l'ai déclaré, évidemment, dans mon dossier. Mm-hmm. Donc, je suis en train de négocier avec ma famille pour récupérer... ça sera pas grand-chose par rapport à ma dette, mais bon... donc, ils m'ont donné 18 mois avec une somme à rembourser qui est raisonnable par rapport à mes ressources. Aujourd'hui, je suis à la retraite, donc effectivement, j'ai moins de ressources.
D'accord. Et donc, ce qui veut dire que vous devrez redéposer un dossier dans un an à peu près, un peu avant la fin des 18 mois. D'accord. Très bien.
Voilà, donc Lisa, juste pour nos auditeurs toujours, actuellement, vos ressources, elles ont donc diminué du fait de votre passage à la retraite, c'est ça?
Oui.
Donc, vous êtes aux alentours de quel niveau de revenus?
3 000.
3 000 euros?
Oui.
Et vous avez une capacité de remboursement calculée par la commission de surendettement?
Oui, ils ont calculé 350 euros.
350 euros, d'accord. Juste pour avoir une idée. Hein. Donc, c'est vrai que votre endettement était certain, mais pas astronomique, manifestement.
Donc, si, quand même.
Alors, dites-nous, voilà. Donc, vous étiez à combien au niveau de l'endettement global?
Non, mais je remboursais à peu près 1 800 euros par mois.
De mensualité?
Oui.
D'accord.
Et pour un total de crédit de combien, en tout? Pour l'ensemble des crédits, à peu près?
Pas loin de 80.
80 000 euros?
D'accord.
D'accord. Alors, c'est une somme importante, mais c'est vrai qu'à Crésus, on est aussi confronté à des situations qui sont encore plus largement... grave, je dirais. Hein.
Ah
bon? Oui, on arrive à des situations où on a 200, 300, 400 000 euros de crédit à la consommation. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Il faut tout relativiser, hein, mais c'est vrai d'accord. que ce qui est important, c'est que vous ayez pu trouver une réponse. Vous avez franchi le cap du dépôt de dossier de surendettement. Alors, c'est vrai que pour Crésus, ce n'est pas une finalité en soi, c'est une réponse.
Oui, je sais que vous êtes plutôt maintenant... Enfin, j'ai compris que vous étiez plutôt dans la prévention.
Tout à fait.
Donc, moi, je vous adresse des gens autour de moi. Des gens de 40 ans qui commencent à faire ce qu'il faut pas faire.
Oui.
C'est-à-dire à avoir des difficultés financières, à prendre des crédits. Donc je les oriente vers vous systématiquement pour qu'ils soient accompagnés avant de faire des bêtises.
Et c'est souvent par le bouche à oreille, effectivement, que les personnes viennent à nous.
Bah oui, c'est ma coiffeuse, c'est vous voyez, des gens avec qui je parle. Hein.
Exactement.
C'est une ancienne collègue, son amie, elle me dit, tu sais, il a des difficultés financières. Je dis quoi? Bah, il est divorcé avec un enfant, il peut pas payer ses mensualités de sa maison qu'il a achetée. Voilà. Donc, on voit bien comment ça commence.
Oui, et oui, et le tout, c'est de savoir prendre les choses en main au bon moment.
C'est
mais
ça.
C'est pas toujours facile.
Alors, vraiment, je dis aux auditeurs...
Alors, justement, voilà, si vous aviez quelque chose à dire à nos auditeurs pour...
Alors, je vais dire
terminer.
Déjà une chose. C'est que tous les organismes de crédit sont très forts pour vous faire peur. Par des coups de téléphone, par des tonnes de courriers, par des soi-disant des mises en demeure, etc. N'ayez pas peur.
Oui.
C'est très bien ce que vous dites, c'est excellent, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Oui.
Voilà, vraiment, vraiment, ces gens ne peuvent rien vous faire. Ils n'ont pas le droit même de rentrer dans votre maison.
Oui, bien entendu, il faut un titre exécutoire. Et
oui, mais tout ça, on ne le sait pas vraiment. Pas. Hein,
oui, bien sûr, c'est vrai.
On est complètement ignorant. Hein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Hein, voilà. J'ai même appris que j'ai eu des moments où on m'a dit, allez, Crisus m'a dit, allez vous-même voir l'huissier et arrangez-vous avec lui plutôt qu'avec le créancier.
Et oui.
Et oui. C'est ce qui s'est passé, ça s'est très bien passé. Un huissier, c'est pas du tout ce qu'on pense en réalité. Donc vraiment, faut pas avoir peur et faites-vous accompagner. Voyez les choses en face. Bon, le moment douloureux, c'est de le dire à son environnement. On va vous détester. Et quand vous allez être recevable, tout le monde va vous parler.
Et voilà, c'est ça, tout à fait. Non, il faut gérer la situation, pas faire la politique de l'autruche. Ça ne sert absolument à rien. Et effectivement, non. On a une représentation des choses parfois exagérée. Et lorsqu'on s'attaque au problème, bizarrement, finalement, on trouve une solution. Hein. Donc vraiment,
oui.
Ce que vous avez fait, bon, c'est pas évident, après des années, c'est sûr, hein, d'enchaînement de crédit.
Ah, mais moi, j'ai souffert
mais
pendant des années,
je suis
tombée malade. Hein.
Ah oui, évidemment.
Non,
oui,
franchement, j'étais en dépression, je me suis fabriqué ma petite maladie cancéreuse, un cauchemar. Un cauchemar, vraiment. Et puis, vous êtes isolé socialement parce que vous avez moins d'argent, vous pouvez pas sortir, etc., etc., etc. Voilà. Donc... je découvre vraiment que dans ce pays, d'abord, il y a des gens fabuleux comme un Crésus qui militent, qui font, etc., pour aider, et puis aussi pour travailler au niveau des lois, hein, de ce que j'ai compris.
Tout à fait.
Voilà, donc vous avez de l'influence.
Et nous essayons de faire bouger les choses toujours en faveur de l'humain. Hein. Je crois que c'est ça qui est important. Je voulais vous remercier, Lisa, nom de Crésus et de Radio Crésus, pour votre témoignage qui servira nos auditeurs et tous ceux qui se trouvent ou qui se trouveront peut-être un jour dans une situation délicate. Merci pour vos conseils et bonne suite. Merci.
Et merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Crésus. Crésus, la radio qui vous aide. Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes toujours sur Radio Crésus et Adélaïde Brèche, stagiaire avocate, nous a rejoint. Bonjour Adélaïde.
Bonjour.
Et nous enchaînons sans tarder avec Yvette. Bonjour Yvette.
Bonjour.
Voilà, donc vous êtes sur Radio Crésus et vous avez souhaité témoigner. Expliquez-nous un peu ce qui vous arrive.
Eh bien, je trouve tout à fait anormal que je ne puisse avoir aucune retraite de réversion, ni d'un mari, ni d'un autre, parce que la loi ayant changé le 1er juillet 2004, il y a une des femmes de mon premier mari qui, elle, touche tout. Alors que moi, j'ai été mariée 30 ans, j'ai 3 enfants, j'ai divorcé en 84, je me suis remariée en 91, mais je suis veuve depuis 2000. Donc j'ai eu deux maris. Le premier mari dont j'ai divorcé s'est remarié pendant 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Sa veuve touche sa retraite entière.
Oui, et vous, rien du tout.
Elle bénéficie, c'est ce que je viens de dire, de la loi du 1er juillet 2004, alors que la retraite a été accordée à cette personne le 1er juillet 2002.
Alors, est-ce que cette situation vous a mis...
Il aurait donc fallu qu'à la date du décès de mon ex-époux, alors que j'étais remariée, je demande la réversion, puisqu'il est décédé le 12 février 1997.
Oui.
Mais c'est absolument aberrant, de, quand on porte le nom de, d'un second époux, de demander la réversion du premier, alors que... Au bout de 30 ans de mariage, je pensais que c'était quelque chose de tout à fait normal.
Oui.
Alors après, évidemment, mon second mari, lui, avait été marié 33 ans avec sa première femme, et c'est elle qui bénéficie de sa retraite. Ce qui fait que moi, étant entre les deux, je ne peux bénéficier qu'une une retraite insignifiante de 15 euros par mois de mon second époux, parce que je suis entre les deux lois. Alors, j'insiste sur le fait qu'il faut que la retraite de son ex-conjoint soit demandée lorsqu'on l'on est remarié, même si on porte un autre nom.
Et alors, Yvette, oui.
Je n'aurai pas cette malheur que j'ai là de ne rien toucher.
Yvette.
On me donne le Fonds national de solidarité, alors qu'en réalité...
Oui, Yvette, vous m'entendez, Yvette? Yvette.
Je ne devrais pas y avoir droit, puisque je devrais avoir droit à une retraite au moins d'un ou... Mari, quoi.
Oui, voilà. Yvette, alors c'est vrai que vous...
Pourquoi je suis entre deux lois.
Oui, vous m'entendez bien, Yvette?
Oui.
Oui, c'est vrai que votre situation semble assez complexe, très technique en tous les cas, hein, relative à cette à ce problème de reversion de pension retraite. Dites-nous, est-ce que cette absence de reversion vous a mis dans une situation financière délicate?
J'ai été obligée de faire, j'ai été en surendettement, hein, parce que j'ai été obligée de faire des prêts pour vivre, pour payer mon loyer, qui est cher, puis enfin, la complémentaire, me chauffer, enfin, ouais. Bon, toutes ces choses qui sont...
Actuellement,
banales,
actuellement, vous...
Donc, mais, donc. Et qui pour moi, ben, bien sûr que j'ai fait du surendettement, d'ailleurs, et de suite, on m'a rien demandé à rembourser, parce qu'on a compris
votre situation.
La Banque de France a compris que c'était...
Alors, vous avez quel niveau de revenu aujourd'hui?
780 par mois, avec le Fonds national de solidarité.
Et donc ça, c'est une moyenne, avec il y a une pension trimestrielle qui vient en plus, ou c'est tout compris?
Non, c'est le tout, ça, hein.
D'accord.
Tout confondu. J'ai 780, mais il faut retirer le Fonds national de solidarité. Bon, j'ai eu 3 enfants, alors je bénéficie de 15 ou 20 euros par mois de ça, mais je ne touche rien d'autre que...
Et vous disiez...
Tout ça, oui. Parce que les lois ont changé pour mon premier mariage et mon second. Donc, ce sont les deux épouses différentes qui touchent les retraites.
Oui. Oui, ça, effectivement, on a bien compris que vous n'étiez pas bénéficiaire de ces pensions de réversion. Alors, vous parliez du loyer qui était important pour vous, donc...
Oui, il est de 550.
550 euros, donc ça représente plus de la moitié de vos ressources.
Ah ben, évidemment.
Et votre reste à vivre.
Ce sont mes enfants qui m'aident à manger, à me chauffer et tout ça. J'ai encore 2 enfants, puisque j'ai eu le malheur de perdre mon fils à 23 ans, quelques années, et... J'ai plus que 2 enfants, donc c'est eux qui m'aident au chauffage, à l'éclairage et à l'alimentation.
Donc
tout
il y a
ça
la...
parce que
oui.
Ben, j'ai pas une retraite comme il faut. Si j'avais, moi je sais pas, je dis même que 1000 euros par mois, je m'estimerais heureuse, mais voilà.
Et votre activité professionnelle antérieure, c'était, vous étiez dans quel domaine?
Eh bien, moi, j'ai été employée de bureau pendant plusieurs années.
Oui.
J'ai arrêté parce que j'ai fait une tuberculose pulmonaire pendant plusieurs années. Et mon ex-mari, donc le père de mes enfants, était salarié, maçon. Puis après, il a pris un commerce. Enfin, on a pris un commerce, mais enfin, comme il était à son nom, le commerce, j'ai pas été déclarée, hein, bien sûr.
Et donc vous aidiez effectivement...
Après, ouais. J'ai fait comme beaucoup, j'ai fait des ménages, et puis en 98, j'ai eu un cancer au sein, et évidemment, je n'ai pas pu continuer à manipuler les balais,
ouais.
les, enfin, tout ce qu'il faut pour faire le ménage. Donc, je ne fais rien. Voilà. Je ne fais plus rien. Mais enfin, j'ai 78 ans. Voilà.
Et donc, vous aviez été en contact avec Crésus ?
Oui.
Hein, pour et justement...
Ma fille l'avait vue sur...
Sur Internet ?
Sur une plaquette. Non, c'est Jean-Pierre Foucault. Non, Jean-Pierre Pernaud. Voilà, excusez-moi. Oui. Jean-Pierre Pernaud, qui un jour en a parlé à la télé, et ça m'a fait un déclic, et j'ai compris que je pouvais peut-être expliquer cette situation qui est aberrante, parce que il faut que toutes les personnes, et ça j'insiste beaucoup, toutes les femmes qui sont remariées, n'oublient pas de demander la retraite de son premier mari, même si elle porte le nom du second, parce que ça c'est quelque chose qui n'a jamais paru nulle part, jamais, jamais, jamais.
Mais écoutez, on va prendre ce conseil, votre conseil. Alors c'est vrai que la législation est quelquefois injuste, on va dire, hein, ou en tout cas elle est perçue comme telle. Et en l'occurrence, pour vous, c'est le cas, puisque malgré la vie de couple que vous avez menée avec vos époux, eh bien effectivement, vous n'avez droit qu'à 15 euros de pension de réversion.
Du second,
du second, on est
du
bien d'accord.
Je n'ai rien. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, on a bien compris la problématique.
J'ai 30 ans de mariage, mes 3 enfants et tout, je n'ai rien. Alors qu'en réalité, du second, je suis veuve. Alors, moi, j'avais l'impression qu'étant veuve, c'était... j'aurais dû...
Et quelquefois, on est mal renseigné, ou en tout cas, on a une...
Voilà, donc il faut être vigilant. Mais elle bénéficie de la loi d'avant, donc...
Oui.
C'est ce qui m'a été expliqué maintes et maintes fois.
Donc ce que vous nous dites, Yvette, Yvette, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut être vigilant finalement sur la réglementation, sur la manière aussi de demander.
Ah oui, j'insiste sur toutes les femmes qui entendront ça, de bien penser, de demander, même quand on est remarié, de bien demander la reversion de son premier mari qui est décédé, hein, parce que...
Là, c'est noté, Yvette.
Je n'aurais pas de situation comme j'ai maintenant. Hein.
Merci beaucoup, Yvette, pour votre témoignage.
Voilà.
Hein, et donc, bonne suite à vous. Merci.
Oui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup.
Au revoir.
Merci. Au revoir, monsieur.
Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes toujours sur Radio Crésus et après le témoignage d'Yvette, nous recevons Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour monsieur.
Voilà, vous êtes sur Radio Crésus, vous avez souhaité témoigner de votre situation. Dites-nous ce qui vous arrive.
Eh bien écoutez, nous avons contracté des crédits sur nombreuses années. Donc, comme beaucoup de gens, on s'est fait avoir par les crédits renouvelables. Puisque c'est très facile à obtenir. Et il se trouve que nous avions déposé un dossier sur endettement qui a été refusé, enfin accepté par la BDF, mais refusé par le juge. Donc après, on est parti dans une bataille avec les créanciers. Nous avons payé les créanciers pendant 15 mois. Et il se trouve qu'on en a très peu qui sont passés au tribunal. On en a quand même deux. On a été obligé de prendre un avocat parce que bon, ça passait au tribunal de grande instance. Il y en a un, on a été la forclusion a été prononcée, et une autre, je ne sais pas si je peux donner son nom, mais qui a été, qui avait tout nos relevés bancaires et qui nous a quand même accordé un crédit, sachant qu'on ne pouvait pas le rembourser.
D'accord.
Donc eux, ils ont été pénalisés, ils ont été, nous on n'a plus que 18 000 euros à payer, et eux ils ont eu une, si vous voulez, ils ont été condamnés à 27 000 euros.
D'accord. Alors je vous arrête. Oui. Là, en une minute, vous nous délivrez beaucoup d'informations, hein, et c'est vrai que pour nos auditeurs, c'est important de bien comprendre aussi la procédure dans laquelle vous êtes engagé, la procédure de surendettement.
Tout à fait.
Et c'est vrai que c'est là, vous nous le dites en une minute, effectivement, mais c'est une procédure qui est longue.
Qui est longue, qui est difficile, qui est pénible.
Parce qu'entre entre le moment où vous avez été recevable, il y a une contestation qui a été faite par un créancier, c'est ça ?
Par un créancier, oui, tout à fait, qui a jugé qu'on était de mauvaise foi.
Oui.
Donc, après, ça dépend ce qu'on appelle mauvaise foi. Bon.
Et là, vous êtes passé devant le juge. Oui.
On est passé devant le juge où ça a duré 2 minutes.
Oui.
Elle nous a rien demandé. Elle nous a simplement dit, moi je trouve que vous avez été de mauvaise foi. Il y avait une avocate de l'autre côté. Ce que je trouve de dommage, c'est que la BDF nous a dit que c'était simplement pour voir nos revenus. Donc nous, on les a crus sur parole. Donc on n'a pas pris d'avocat.
Oui, la BDF, c'est la Banque de France, hein, qu'on soit clair.
La Banque de France, voilà, oui. Voilà, tout à fait. Notre conseiller nous a dit, non, allez-y comme ça, il n'y a pas de souci. Donc ben, nous, on est arrivés, faut quand même reconnaître que c'est public. Donc c'est
les audiences, oui.
Voilà, l'audience est publique, donc c'est une épreuve, parce qu'on étale en 2 minutes votre vie devant tout le monde, même si, bon, vous êtes, c'est pas évident.
Oui.
Et la juge ne nous a absolument pas laissé parler, a plutôt laissé parler l'avocate, et a donné raison à l'avocate. Alors qu'on n'avait que 2 créanciers qui s'opposaient, notamment uniquement sur les crédits contactés par mon mari, où moi, j'étais même pas co-emprunteur. C'est-à-dire que moi, on m'a laissé de côté, on a jugé, parce que mon mari a une profession, un petit peu particulière.
Oui.
Bon, il est gendarme, hein, pour tout dire. Et bon, on l'a jugé sur sa profession. C'est-à-dire que quand on est... Voilà.
C'est important ce que vous dites, et il faut être très vigilant parce que quelquefois, effectivement, il est possible d'introduire des recours, notamment sur la question de la bonne foi. Celle-ci doit être appréciée pour chacun des époux pris individuellement.
Oui.
Et en l'occurrence,
là,
c'était peut-être pas le cas, hein, et peut-être que là, effectivement, le magistrat a un peu n'a pas appliqué les règles.
Nous avons fait appel, alors que normalement, on n'avait même pas le droit de faire appel. Nous avons fait appel et la conclusion a été la même, puisque on a compris que d'un juge à un autre, on n'allait pas à l'encontre. Hein, donc on a tout simplement compris que un autre juge ne jugeait pas un autre juge. Voilà.
C'est quand même la procédure d'appel sert à cela, à réformer un jugement si celui-ci était juridiquement faible ou alors sans base concrète. Mais dans votre situation, je pense que même si le recours à un avocat n'est pas obligatoire, il y a des situations qui nécessitent vraiment que vous fassiez intervenir un conseiller et notamment un avocat qui pourra vous représenter au mieux lors d'une audience. Vous savez, pour prouver la bonne foi.
C'est ce qu'on a fait après.
Très bien.
Parce qu'on a été assigné. On a été assigné par 2 sociétés, par Gémoney Bank et par Cofinoga.
Oui.
Et là, nous avons pris une avocate.
D'accord.
Et l'avocate a réussi à obtenir ce qu'elle voulait et bien sûr a bien fait ressortir que c'était pas la profession qui faisait, parce que mon mari n'a pas toujours été gendarme, on a aussi travaillé dans le civil, et elle a bien stipulé comme quoi la profession n'avait rien à voir. Mais bon, ce qui nous a dérangé, c'est que, après j'ai rien contre, mais il aurait été maçon, il aurait été n'importe quoi, on n'aurait pas stipulé forcément sa profession.
Oui, donc pour que les auditeurs puissent bien comprendre, même si dans ces situations, que ce soit un délai de grâce ou alors un dossier de surendettement, même si le recours à un avocat n'est pas obligatoire, dans certaines situations, il est recommandé. C'est ça que les auditeurs doivent comprendre. Il est recommandé puisqu'il y a des spécificités, il y a des précisions à apporter, notamment lors d'une audience, notamment aussi pour prouver la bonne foi. Les arguments de l'avocat pèseront dans quelques fois avec plus de force, vous comprenez?
Oui, parce que je pense aussi que les avocats savent lire entre les lignes et nous, on ne sait pas forcément, on ne connaît pas forcément la marche à suivre.
C'est vrai.
Bon, ce sont quand même des langages qui sont particuliers et on ne connaît pas forcément, malgré qu'il y ait Internet, malgré qu'il y ait beaucoup de choses, on reste un petit peu évasif et on n'a pas d'explication. Donc il faut justement, je crois, faire appel à un avocat. Faut pas avoir peur de faire appel à un avocat, parce qu'un avocat connaît la bonne marche à suivre, et nous on la connaît pas forcément.
Alors justement, vous disiez que vous avez obtenu gain de cause dans un second temps,
sur
on va dire,
concernant
deux créances. Et donc comment ça s'est enchaîné par la suite?
Alors ça s'est enchaîné que après c'est quand même quelque chose de coûteux, hein. Quand il faut que les auditeurs le sachent, que c'est coûteux quand même, si au bout on y arrive. L'avocat.
D'accord.
L'avocat, c'est parce que nous, on n'avait pas le droit à la
juridiction.
Oui. Non, voilà. Oui. Bon, après, tant mieux, hein, c'est qu'on gagne mieux notre vie que certains, et je pense que c'est bien que les gens... Par contre, il ne faut pas que les gens aient peur de demander, de se renseigner, parce que moi, un avocat, vous met pas la main, moi, il nous a pas mis la couteau sous la gorge, elle nous a fait des facilités de paiement, Mais cette avocate, bon, elle nous a quand même permis de gagner. On devait à un créancier 10 000 euros, il en réclamait 25 000.
Mmh. Donc, oui, avec, là, les, il y a avec les intérêts, et puis les dommages intérêts.
Voilà. Et puis voilà. Donc ça a été clos. Donc ils nous ont même payé des dommages et intérêts sur sur un de 600 euros, puisque c'est eux qui nous avaient mis
donc,
dans la fête
accomplie. L'établissement de crédit a été sanctionné, c'est ça, par le juge.
Voilà, tout à fait.
Pour quel motif?
Parce que quand ils nous ont fait remplir, si vous voulez, quand ils nous ont accordé le crédit, ils l'ont accordé pour une certaine somme, ils n'ont pas fait d'avenant. Et après, ils nous ont reproposé une augmentation de ce crédit renouvelable sans avenant.
D'accord, donc façon unilatérale de leur propre chef.
Voilà, comme souvent ils le font.
Oui, et ça, voilà. Le juge l'a sanctionné.
Voilà, l'a sanctionné, oui, oui. Par contre, on a changé de juge, on est tombé sur un juge beaucoup plus ouvert, beaucoup plus compréhensif. Après, ça dépend, hein. Bon, après, ça passe ou ça passe pas. Après, quand on est de bonne foi, bon, ben, on explique sa situation. Bon, mais bon, c'est pas toujours facile. Mais là, on a eu le droit d'être entendu, et même sur un autre dossier, on a réussi à avoir, à chaque fois qu'on est passé devant le juge, là, parce qu'on a quelques assignations, on a eu une diminution. Parce que faut se dire que les créanciers, ils mettent des queues au zéro, hein.
Ils mettent des?
Ils vous en... Ils mettent des queues au zéro, c'est-à-dire que quand vous leur enlevez 10 000, ils vous en mettent 20 000. Hein.
D'accord.
Et si vous n'avez pas un juge qui fait attention, parce qu'ils n'ont pas qu'un dossier, je peux vous dire que la somme, elle monte très vite. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, vous aviez parlé, il me semble, de délai de forclusion ou pas, de forclusion?
Forclusion, on en a eu un, deuxième.
Donc, juste pour expliquer, oui, ce que c'est que la forclusion?
Alors la forclusion, c'est-à-dire que bon, pendant... C'est quand vous dépassez, par exemple, la somme et que pendant 2 ans, la société de crédit ne s'est pas manifestée,
oui.
Il y a forclusion.
C'est-à-dire que...
Il y a 2 ans à partir de le premier incident de paiement.
Voilà.
Mais même quand vous avez un incident de paiement, mais que la société de crédit ne vous a pas fait signer un avenant pour vous dire qu'elle a augmenté la réserve, elle a obtenu la forclusion. Puisqu'ils auraient dû nous faire signer un avenant pour nous dire, voilà, on vous donne 1 000 euros de plus, et ils ne l'ont pas fait. Donc, en fait, ils ont été condamnés, et c'est eux qui nous ont... La dette a été effacée.
Oui, c'est-à-dire que, simplement pour clarifier les choses par rapport aux auditeurs, un délai de forclusion, c'est simplement le fait que, lorsque vous devez une somme à un créancier, il a un délai fixé par la loi qui lui permet de récupérer la somme, notamment lorsqu'il y a des retards de paiement. Et une fois que ce délai est écoulé, si le créancier n'a pas saisi les tribunaux ou la justice à temps, il n'a plus la possibilité de réclamer cette somme.
Voilà, ce qui était le cas pour vous, Audrey, hein, puisque finalement l'établissement a perdu la totalité de sa créance, c'est ça ?
A perdu la totalité de sa créance, oui.
Tout à fait.
Mais grâce à l'avocat, parce que nous avons été harcelés, nous sommes toujours harcelés, même pour des dossiers qui ont été clos.
Oui.
Les sociétés de crédit, après c'est des sociétés de recouvrement, et bon, c'est pesant.
Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, Audrey, vous en êtes où exactement?
Eh bien, écoutez, nous, on a eu quelques assignations, donc on s'est arrangé avec les huissiers, donc nous, on en a, sur 30 crédits, on n'en a que 10 qui sont passés au tribunal.
D'accord.
Les autres n'ont pas. Alors nous, on a cessé de payer parce qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, on ne sait pas où va l'argent.
Oui.
Parce qu'on se retrouve avec des sociétés de recouvrement qui ont racheté les créances.
Mmh.
Donc les créanciers, eux, ils empochent l'argent, on ne sait pas ce qu'ils en font. Et ils ont vendu leurs créances, bon, ben, nous, on se retrouve avec 2 ou 3 autres sociétés avec lesquelles on n'a pas signé de contrat. Donc ces sociétés-là, on leur doit rien, nous. Et juridiquement, on n'a rien qui dit que ça a été vendu à Intrumustria ou à Contentia.
Donc, oui, sur les nous, transferts de créances, alors ça, il faut vérifier, mais en l'occurrence, ça peut se discuter. Hein, mais là encore, je dirais, l'avocat peut effectivement mettre en avant effectivement qu'il n'y ait pas de lien, ou en tout cas que la créance n'est pas exigible. Mais ça, c'est à voir plus en détail. En tout état de cause, il est bien clair qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de dossier de surendettement en cours.
Non, du tout.
Et donc, vous aviez été effectivement déclaré irrecevable
On a été déclaré recevable par la
Banque
de France.
Voilà, et après, irrecevable
par le juge.
Voilà.
Et on a essayé de refaire un dossier de surendettement, mais comme on avait été jugé une première fois de mauvaise foi, ça a été à nouveau refusé. C'est vrai, on n'est pas très aidé par la Banque de France.
Tout à fait. Donc là, vous êtes hors procédure de surendettement.
Hors procédure de surendettement.
Vous êtes dans le droit commun, on va dire.
Part qu'on est fiché pendant 5 ans, on est quand même fiché parce qu'on a eu des incidents de paiement.
Tout à fait.
Et ça, là-dessus, la Banque de France n'a pas... Mais ça, c'est pas important. Je veux dire, bon, c'est pas... Nous, on peut vivre sans crédit. Maintenant, on a compris qu'on peut vivre sans crédit, quoi. Mais c'est quand même une facilité de crédit. Et je pense que la loi actuelle n'est pas encore appliquée.
Alors, il y a des réformes en cours, hein, et notamment qui devraient être mises en œuvre pour le 1er janvier 2014. Mais en tout état de cause, effectivement, on se rend compte que, quand bien même on ne bénéficie pas de la procédure de surendettement, on peut néanmoins se défendre. Ça, c'est aussi important, hein, puisque vous le démontrez, Audrey. Et si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs aujourd'hui?
Au niveau de comment se défendre?
Par exemple?
Oui. Moi, je pense qu'il faut demander conseil à un avocat. Faut pas... Je vous parle comme ça maintenant, parce que ça fait
oui,
deux ans.
Oui, c'est votre cas, oui.
Voilà. Faut pas prendre en considération tous les courriers qu'on peut recevoir, parce que les courriers qu'on reçoit n'émanent pas forcément... Et ça, c'est bien... Bon, justement, si vous avez un avocat près de vous, il y a des tas d'huissiers maintenant qui sont en société de recouvrement et qui envoient des lettres comme s'ils étaient huissiers. Nous, on en reçoit régulièrement encore, comme quoi on va venir ouvrir notre porte, qu'on va tout nous saisir, alors que dans la loi, ils n'ont pas le droit. S'ils sont société de recouvrement, ils ne sont pas huissiers. Mmh. Et donc, il y a un abus là-dessus aussi. Et
oui.
Des lettres, que vous dire, plis confidentiel avec le libellé de huissier, on en reçoit encore régulièrement. On a appelé mon mari sur son lieu de travail. On a appelé nos voisins.
Mais de toute façon, sachant que même un huissier, tant qu'il n'a pas de décision de justice vous condamnant à un paiement, c'est-à-dire ce qu'on appelle un titre exécutoire à présenter, il ne peut pas pratiquer de saisie non plus.
Oui, mais bon, monsieur tout le monde, quand on reçoit ce genre de lettres, après on est aguerri. Mais quand on reçoit ce genre de lettres, il pousse un petit peu les gens à avoir peur et à payer.
C'est vrai.
Alors qu'à aucun moment, il vous donne la somme exacte, il vous donne une somme à payer. Ou alors ils passent par un avocat et vous disent si vous payez tout de suite, on vous fait une réduction de la dette.
C'est vrai, vous avez totalement raison, Audrey. Et souvent, c'est la représentation qu'on se fait de l'huissier qui fait qu'on va lâcher des sommes, alors que juridiquement, rien ne nous y oblige à ce moment-là. Je crois que ça, c'est important. En tous les cas, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Audrey.
Je vous en prie, je souhaite bon courage à tout le monde, mais surtout qu'ils ne baissent pas les bras parce qu'il y a toujours une solution.
Eh bien, c'est bien l'esprit Crésus. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Crésus avec Adélaïde Brèche, stagiaire avocate. Bonjour Adélaïde. Marine Wächter de la Chambre de consommation d'Alsace.
Bonjour.
Jean-Emmanuel Medina, stagiaire avocat également.
Bonjour.
Bonjour, et nous enchaînons après Audrey avec Fatima. Bonjour Fatima.
Bonjour tout le monde, bonjour.
Voilà, vous êtes
bonjour les auditrices et auditeurs. Alors je me présente rapidement, donc je m'appelle Fatima, donc j'ai 35 ans.
Oui.
Et mes dettes ont été effacées il y a quelques mois de cela.
Effacées par qui?
Par la Banque de France.
D'accord, la commission de surendettement, voilà.
J'ai eu cette chance-là, mais je dirais que c'est vraiment un cauchemar qu'on vit. J'étais jeune, j'étais très jeune, je devais avoir 20 ans, 22 ans. La FNAC, je vais donner des noms, hein, c'est comme ça.
Oui.
Donc la FNAC vous propose une carte sur laquelle vous avez 1 500 €. Moi j'étais élevée à la DAS. Bon, j'ai pas non plus envie de faire pleurer les chaumières, mais c'est pour dire que parfois il y a des personnes, je pense, qui peuvent être très dépensières parce qu'elles ont besoin de combler un manque affectif. Mais c'est pas non plus la meilleure solution. Sauf que cette solution, on l'a trop facilement. Carte 1 500 €, donc à la FNAC, j'avais acheté une chaîne IFI à 700 €, un PC, je me prenais vraiment pour une bourgeoise.
Mmh.
J'avais acheté un scooter, on me l'a volé. J'étais à la BNP, j'avais un gros débit. Ils m'ont proposé de combler ce débit par un taux à 15%. Donc moi, je suis une victime, du moins, en tant que jeune, naïve, qui connaît pas grand-chose, qui sait pas comment m'en sortir, je sais pas comment faire, j'accepte tout ce qu'on propose. Voilà.
C'est un peu de l'argent.
C'est de l'argent. 2004. Oui. Pardon ?
2004, ça.
c'est ça?
En 2004, oui. Je me rappelle que j'ai acheté, parce que je m'étais fait plaquer, j'ai acheté une télévision et un ordinateur le jour même.
D'accord.
À crédit.
Et
D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais à la poste, je connais une nana, une voisine un peu hystérique comme ça, et elle voulait absolument un téléphone, et ils lui disent non, c'est possible de vous ouvrir la ligne que le 16. Elle dit non, je voulais ça tout de suite.
Oui.
Donc elle s'excite un peu, etc. Et quand elle a fini et que finalement ils résilient l'abonnement, ils ne le prennent pas, elle m'explique qu'en fait elle était déjà chez B&U,
okay.
Mais qu'elle n'avait pas payé sa facture.
Et voilà, d'accord.
Alors est-ce que vous avez...
Oui.
C'est vraiment un engrenage. C'est en fait, on est dans l'empressement, on est fiévreux, on peut être dépensier compulsif, c'est considéré malgré tout comme une maladie. Hop, ça y est, je peux aller avoir n'importe quel. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je pense. À l'époque aussi, je crois que j'avais pas payé SFR. Hop, je voulais un abonnement, et je l'ai eu tout de suite.
Ok. Et vous pensez avec le recul aujourd'hui que c'était de l'argent facile, tout ça, ce que vous avez obtenu?
Ah, c'était trop facile. Et c'est trop dangereux. Et on est trop attiré par la surconsommation. Rien qu'en regardant la télé, les médias, le smartphone, on veut se déplacer, on veut avoir un beau scooter, parce qu'on n'a pas le permis, on n'est pas foutu d'avoir le permis. Moi, j'ai 35 ans, maintenant, je l'ai eu que à 35 ans. On se rend, pour ceux qui, bon, il y a le choix, il peut y avoir la personne qui a eu ses parents et qui a eu une éducation où le papa lui apprend vraiment à se méfier, et ça c'est très bien. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément eu soit les bons parents, soit, moi ma mère était très fragile, mm-hmm. donc souvent hospitalisée, donc forcément la DAS, pas d'exemple. On se retrouve, on est seul, on a un appartement à l'âge de 18 ans, du moins un studio, et on prend tout ce qui bouge.
Oui. Donc, vous nous dites, en fait, ce qui vous a manqué, c'est avoir des repères, avoir effectivement des personnes qui puissent vous transmettre une manière aussi de faire attention et d'être vigilant, c'est ça un peu?
Sincèrement, je serais curieuse de savoir si d'autres personnes qui sont super endettées ont eu un manque affectif durant leur enfance. Parce que je pense pas qu'il y a que ça. Je pense que c'est plutôt aux organismes d'arrêter de nous prendre pour des cons, si je puis me permettre, mm-hmm. parce qu'on nous facilite trop les choses. À la poste, par exemple, là on est en 2013.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'ils tapent pas, du moins c'est pas la poste qui est fautif, hein. C'est un fichier qui devrait exister sur lequel, tant pis, faut ficher les gens. Ah, désolé, vous avez pas payé votre abonnement ailleurs. Je suis désolé, je peux pas vous ouvrir d'abonnement.
Oui.
Alors, désolé, vous avez un crédit dans une autre banque ou.
Oui.
Tant pis.
Alors, Fatima, vous mettez le point sur un point que défend Crésus et que réclame Crésus depuis longtemps. C'est un registre pour les crédits. Actuellement, on a ce qu'on appelle un fichier négatif qui n'indique que les impayés de crédit, par exemple. Hein. Et c'est vrai que Crésus, aujourd'hui, est sur le point d'obtenir ce registre positif, c'est-à-dire qu'il recense tous les crédits qu'on souscrit, justement pour éviter le crédit de trop. Qu'est-ce que vous en dites de ça ?
Bien sûr. Moi, je vous avoue, j'ai été tentée, parce que comme j'ai plus le droit au crédit, mes dettes ont été effacées, bon, grâce à Dieu et à la Banque de France, hein, et à ma situation, malheureusement. J'ai été tentée parce que en fait j'ai pris un microcrédit donc à la caisse d'épargne et j'étais tentée par prendre en même temps chez vous, mais je me suis dit mais ça va pas ou quoi?
Oui.
Et c'est parce que j'ai 35 ans et que j'ai vachement ruminé. Mmh. Mais il y a peut-être 10 ans en arrière, on m'aurait tout de suite effacé mes dettes, mais je serais déjà chez vous et ailleurs.
Oui. Alors est-ce qu'il y a un parcours à faire pour comprendre justement ces situations dans lesquelles on se met? Est-ce qu'il y a un peu de sagesse à avoir? Est-ce qu'il y a du bon sens? C'est quoi qui fait qu'à un moment donné on se dit stop là, je suis sur la mauvaise pente, je me tire une balle dans le pied, ça va pas du tout, qu'est-ce qui fait?
C'est trop long, ça dure trop longtemps. Il m'arrive encore là récemment, j'ai acheté une voiture, donc j'ai eu mon crédit, je me suis fait avoir, on m'a remboursé mais il m'a enlevé 100 euros. Là, je l'ai acheté à un professionnel ou entrepreneur. J'achète trop vite. Là, je vais dire, non, il faut se soigner.
Qu'est-ce que vous voulez dire par
beaucoup de sagesse. Alors, pour ceux qui sont monothéistes, ben la prière, voir un psychologue, se faire aider, une assistante sociale, bof, parce que moi, j'avais vu une assistante sociale pour qu'elle m'aide, mais elle m'avait juste filé des fiches où je devais mettre ce que je recevais, ce qui sortait. Mais il faut s'autodiscipliner énormément. Il faut tout de suite commencer. Et c'est aussi aux organismes d'arrêter de nous bouffer. C'est aussi aux organismes. Il n'y a pas qu'à nous. Nous, je veux dire, être humain, on n'est pas, quand on est, on n'est pas avec toutes les armes. On est comme dans une sorte de jungle, et vous avez le crocodile, et le lion, etc. Et il faut à chaque fois se battre contre ces animaux, c'est pas juste.
C'est là où Crésus intervient et conseille les usagers des différents établissements de crédit, et aussi les futurs bénéficiaires, et donc votre témoignage a son importance pour montrer à quel point on peut tomber dans l'engrenage du crédit facile, de l'argent facile, du crédit revolving, renouvelable tout le temps, sans cesse, jusqu'au moment où ça coince. Et quand ça coince, le jeu est terminé, comme on peut dire.
Est-ce qu'aujourd'hui, Fatima, est-ce que vous faites un budget ?
Non, j'y arrive pas.
Qu'est-ce qui vous bloque dans la réalisation de ce budget ?
Parce que c'est... Ben, j'ai pas d'enfant, donc je suis seule.
Oui.
Je sais pas, et donc...
Vous savez, un budget, c'est... On additionne et on soustrait, c'est...
Oui, je l'ai fait pour avoir le microcrédit. Et ouais. Je gère. Je dis qu'à l'heure actuelle, ça fait à peu près un an que j'arrive à avoir des euros jusqu'à la fin du mois. Donc pour moi, c'est déjà très bien.
Il y a une évolution positive.
Voilà. Il y a moins d'un an, du moins il y a plus d'un an, il m'arrive de... Mais c'est maladif. Vous savez, la personne sort en ville, elle a une grosse déprime. Moi, j'ai un frère schizophrène qui habite juste à côté. Bon, après, ce sont des excuses, tout ce que je vous sors. Je pense qu'il faut... D'un côté, il y a le... on peut dépenser, pourquoi pas se faire plaisir, c'est pas grave. Mais le côté crédit, moi, c'était un cauchemar. Ça fait... Quand mes dettes ont été effacées, j'ai pleuré. J'y croyais pas. Et je crois que c'était ça.
Ça a été une délivrance pour vous, le fait de plus avoir ce fardeau sur le dos.
Mais oui. Mais même quand on veut les payer, ces dettes, il
oui.
n'y a personne pour nous aider à le faire. Moi, j'étais allée voir la Banque de France. J'aurais dit, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux payer. Dites-moi combien, même quitte à payer 30 euros pendant 30 ans et que ça soit dispatché chez les organismes.
Alors, c'est pas 30 ans, les plans, c'est 8 ans maximum.
Alors, ouais, mais
il y a une question.
Vous savez, 8000 euros, oui. Quand on gagne 800 euros et qu'on n'a même plus d'APL sur un loyer de 400 euros, voilà.
Fatima, ouais. Avant d'avoir contacté Crésus, est-ce que vous aviez tenté des solutions amiables avec les différents établissements de crédit?
Ben, j'avais demandé à la Banque de France de voir avec eux parce que je me sentais agressée par eux. Je pouvais pas quand je les contactais, je sentais de l'agressivité et je me sentais dépressive. Donc forcément, je me sentais... eux, ce qu'ils demandent, c'est la somme en une fois.
Oui, mais dans cette situation...
Non, ils vous demandent, je sais pas moi, 100 euros par mois à régler pour une somme de 2000 euros.
D'accord, donc la seule solution, c'était de déposer un dossier Banque de France et se retourner vers Crésus de manière à avoir un accompagnement et une écoute pour faire face à cette épreuve, c'est ça concrètement?
Ah mais moi je ne savais pas déjà que Crésus, je croyais que c'était juste un organisme de crédit à taux très faible pour les personnes qui ont été endettées et qui veulent forcément soit acheter une voiture, déménager ou qui sont vraiment dans le besoin quoi.
Oui.
Donc je pensais ça, je pensais pas que c'était un organisme qui accompagnait, et c'est très bien.
Oui.
C'est très bien parce que je pense que je serais sortie avec plus de fierté en ayant réglé mes dettes, ce qui s'élevait quand même à 8000 euros. Hein,
oui.
8000 euros.
Avec quel revenu vous aviez quel revenu
Ben, en fait, à un moment, j'étais au RSA, donc c'était un peu le bordel.
Oui, c'est une somme
ensuite,
importante.
Ensuite, j'avais un contrat d'avenir. Il y a juste une année... pendant 6 mois où je gagnais très bien, du moins très bien. Je faisais 40 heures par semaine et j'avais 2 boulots.
Mmh.
Mais j'ai pas couru après la Banque de France. Tout ce que je leur avais dit, c'est que je souhaitais qu'on m'accompagne afin que moi, je règle chaque mois quelque chose.
D'accord.
Je voulais qu'on définisse une somme.
Oui.
C'est pas à moi de décider. Je pouvais pas. Je me sentais faible par rapport à ces 8000 euros.
La décision qui a été prise par la commission, c'était une décision, une orientation vers la procédure de rétablissement personnel, puisque ils ont estimé que votre situation était irrémédiablement compromise.
Ouais.
Moi, j'ai une question. L'effacement des dettes pour vous a eu lieu. Donc, c'est une mesure très favorable. C'est une seconde chance qu'on vous donne. Est-ce que cet effacement, vous en avez tiré une leçon, un enseignement, aujourd'hui?
Ah mais oui, parce que j'étais censée avoir un rendez-vous chez vous en octobre, j'aurais pris un deuxième crédit. Ah mais oui, parce que là où je suis, donc où j'ai pris mon microcrédit donc à Parcours Confiance, j'ai fait en sorte, dans cette somme, de prendre une voiture pas trop chère et de payer d'un coup chez Direct Assurance, donc l'assurance auto. qui fait que j'ai que 57 euros à payer par mois, alors que j'aurais pu avoir beaucoup plus si j'avais pris une assurance auto à paiement mensuel.
Donc vous nous dites finalement, oui, vous avez changé vos comportements suite à cette procédure de rétablissement personnel, c'est ce que vous nous dites là.
Je pourrais aussi très bien.
On vous entend pas bien. Oui.
Pardon.
Oui, on vous entendait pas très bien là, ça va mieux.
Oui. Oui, bien sûr que j'en ai retiré une leçon. Parce que quand j'ai vu cette fille hier à la poste, je me suis vue, moi, il y a peut-être 5 ans en arrière, dans l'hystérie totale, dans le besoin total d'avoir tout de suite quelque chose. Vous entendez ?
Tout à fait. Alors, Fatima, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, auditrices ?
Écoutez, sincèrement, si j'ai un conseil à leur donner, réfléchissez bien. Est-ce que c'est vraiment cette super voiture de merde, pardon de m'énerver, hein, mais est-ce que cette voiture, est-ce que l'apparence c'est vraiment important? De un.
Oui.
Pour ceux qui prennent des voitures là, 40 000, du moins hyper chères là. Est-ce que c'est vraiment important? Ok, petit.
Donc c'est établir ses besoins.
L'apparence. Oui. Voilà. Soignez-vous, regardez les besoins que vous avez. Vous voulez faire une dépense d'un coup là, pincez-vous. Tout ce qui est... Bon, moi, je n'achète pas du Chanel, etc. Mais toutes les personnes qui n'ont pas les moyens, qui veulent acheter du Chanel, pincez-vous. Stop. Arrêtez de regarder les clips de musique, là, où on nous donne envie de ressembler à des prostituées ou à des bonhommes qui se la pètent.
Ou à des stars, banquiers. Voilà.
Stop, quoi. Soignez-vous, priez, j'en sais rien, si vous êtes croyant, priez, ou allez voir un psychologue, il y a des endroits où c'est gratuit.
En tout cas, il faut en parler. Si on a bien compris, Fatima, faire, il faut parler, il faut prendre contact. Et on vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Fatima, qui nous a bien expliqué effectivement comment on peut tomber, sombrer un peu par compulsivité, hein, dans le surendettement, et aussi que la PRP, finalement, eh bien, on en tire aussi des enseignements. Donc, merci beaucoup, Fatima, et on vous souhaite bon courage pour la suite.
Merci beaucoup, merci à vous tous, hein, et au revoir aux auditrices et auditeurs.
Au revoir. Merci.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes sur Radio Crésus, après l'intéressant interview de Fatima, hein, qui nous a bien expliqué de la compulsivité dans ses achats. On rejoint maintenant Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Voilà, vous êtes sur Radio Crésus et vous souhaitez nous parler de vous. Dites-nous ce qui vous arrive.
Alors, donc, ce qui m'arrive, j'étais donc salarié l'année dernière, avant de prendre ma retraite au 1er janvier 2013. Et donc, je me suis aperçu quand même, avant de partir en retraite, que j'avais quand même pas mal de crédits, surtout des crédits revolving. Ça représentait quand même des prélèvements assez importants mensuels. Et donc, j'ai commencé à contacter certains organismes de crédit, dont je ne citerai pas les noms. Et donc, un organisme de crédit m'a orienté vers l'association Crésus.
Voilà. D'accord.
Et donc, j'ai parcouru ce chemin avant de vous avoir. J'avais demandé des étalements à ces organismes de crédit. Et donc, ça avait été... Les échéances ont plus ou moins augmenté suite à des erreurs informatiques que de décembre. J'ai quand même réglé jusqu'à ce jour et j'ai entrepris donc avec vous de faire un parcours de façon à passer en surendettement bancaire. Chose dont je n'avais jamais imaginé ou je ne connaissais pas les procédures à faire. Voilà.
D'accord. Alors quand vous parliez des prélèvements mensuels importants, ils s'élevaient à combien par mois ?
Alors, on s'élevait quand même en moyenne à 600 euros par mois, hein, facilement, quand même.
En crédit à la consommation, donc, hein, crédit renouvelable ?
Oui, tout à fait, tout confondu.
D'accord.
Hein, il y avait un crédit classique, hein, et trois renouvelables, deux gros renouvelables et un petit renouvelable, hein, bien sûr.
D'accord. Et ça représentait combien, alors, de vos ressources ? Alors, peut-être avant la retraite et après la retraite, parce qu'il y a une différence, je pense.
Bah, avant la retraite, j'avais quand même des primes, des intéressements. C'était quand même déjà assez dur, mais j'y arrivais quand même, hein, dans l'ensemble. Ça, j'arrivais à joindre les deux bouts. Bon, c'est vrai que de temps en temps, avec les revolving, ça m'a déjà arrivé une paire de fois de comme beaucoup peuvent faire, à mon avis, pour essayer de ne pas se noyer. jusqu'à la noyade, hein, bien sûr,
oui.
C'est de débloquer sur un revolving pour pouvoir en régler un autre, hein, vous comprenez, quoi.
Oui, ce qu'on appelle la cavalerie budgétaire.
La cavalerie, voilà, sans
voilà.
Fait, bien sûr.
Voilà.
Et donc, avec l'association Crésus, m'a orienté vers un dossier de surendettement bancaire. Bien sûr, dans un premier temps, on a fait des lettres avec Crésus, on a fait des lettres demandant à tous les organismes de baisser les échéances, bien
oui.
sûr. Donc, ben, pas de réponse, bien sûr, de toute façon. Et donc, après ces non-réponses ou ces réponses, bien sûr, j'ai procédé à un dossier de surendettement bancaire auprès de la Banque de France de ma ville.
D'accord. Alors, il faut savoir, alors vous dites bien sûr, il n'y a pas eu de réponse. Ce n'est pas systématique. Hein. Il y a quelquefois dans
non.
certaines situations où les établissements accèdent effectivement à la demande et réduisent effectivement les mensualités. Mais dans votre cas, ça n'a pas été fait. Hein.
Voilà. Alors, c'est grâce quand même à deux courriers recommandés parce que le téléphone, ben, ça ne sert pas tout le temps à grand-chose. Ça reste pas pour moi anonyme. Mais le courrier reste. C'est quand même
oui.
un organisme qui m'a orienté vers vous parce que j'avais envoyé quand même deux lettres recommandées.
D'accord. Donc, qui a pris en compte...
Deuxième, ils ont été obligés de me répondre puisqu'il y avait des solutions. À partir, on prévient quand même l'organisme de crédit. Donc, si on le prévient par téléphone, ça ne va pas passer. Si on le prévient par lettre simple, ça ne va pas passer. Par contre, sur un recommandé, il nous rappelle hein, quand même. Hein.
Oui, donc c'est important le formalisme hein, aussi, vous faites bien de le dire. Il faut marquer je dirais d'une pierre blanche, la démarche.
La démarche, hein, voilà.
Et donc, vous avez été mis en relation avec Crésus, c'est ça, directement?
C'est ça, directement, par l'intermédiaire de l'organisme, donc un rendez-vous d'une heure pour expliquer la situation.
Oui.
Donc, moi, dans mon domaine, je suis un salarié, je suis ouvrier hein, de base. Donc, ma retraite était moins forte que le salaire hein, sur
oui.
l'année, bien sûr. Donc, ça a changé quand même mon budget, hein, bien sûr. Et,
vous avez perdu combien au niveau des ressources? C'est 5%, 10%?
Pas loin de 10% hein, quand même.
D'accord, 10% en moins.
Oui, ça fait mal hein, quand même.
Oui, sur un revenu mensuel qui était de combien, initialement?
Mon revenu mensuel était de 1000... Alors, si on met les primes tout complet, on est sur 18 000 euros à l'année. Donc, on est sur un revenu de...
1500.
1500, vous voyez, à peu près.
Voilà. D'accord. Et donc là, vous êtes à 1350 au niveau de la retraite, grosso modo.
Ah non, je suis pas à 1000. Justement, j'étais bien en dessous. Si j'étais de 1500 à 1350, ça aurait été. Mais j'ai descendu quand même parce que, on va pas parler des retraites, mais les retraites sont basées sur le salaire de base et non
oui.
pas sur les intéressements, les 13e mois et les primes de vacances et les anciennetés.
D'accord.
Donc, obligatoirement, la retraite, elle était de 1000 euros. Elle était même en dessous, mais elle a bougé un petit peu avec les ajustements des dernières années.
Donc, on est plutôt à moins 30% que moins 10%.
Oui, voilà, plutôt moins de 20%, facilement.
Ah oui, largement. Mmh. Ah oui, tout à fait. Ah oui, donc, on peut comprendre, effectivement.
Mmh.
Voilà. Donc, l'accompagnement, ensuite, point avec Crésus. Donc, premier entretien, une bonne heure pour débroussailler le terrain.
Tour, hein,
voilà.
du patrimoine, quand on en a ou quand on n'en a pas.
Oui.
Donc, obligatoirement, bon, moi, je n'avais pas de... Le dossier était assez simple, quand même, à la base, pour moi.
Voilà, il n'est pas trop complexe, on va dire.
Pas trop complexe parce ouais. que bon, il n'y avait pas de maison, donc il n'y avait pas de biens immobiliers à revendre, il n'y avait pas de grosses voitures non plus. Hein, il y a une voiture qui a 15-16 ans qui n'a
oui.
plus de valeur, hein, donc c'est pas une voiture, une voiture de haut de gamme, hein, de luxe.
Oui.
Voilà, et donc obligatoirement, c'est vrai que si j'avais une voiture de 30 000 euros, j'aurais pu récupérer 15 000 euros parce que ma dette s'élevait quand même en tout à 12-15 000 euros. C'était payable hein, en deux ans, c'était jouable hein,
oui.
en baissant un peu les traites, hein, bien sûr. Mais bon, personne n'a voulu jouer le jeu au niveau des organismes de crédit, c'est pour ça que je me suis orienté vers vous par l'intermédiaire d'un organisme de crédit. Sinon, je ne vous aurais pas connu, par contre.
Oui, bah forcément, généralement, quand on rencontre une difficulté, c'est souvent une première difficulté financière. Auparavant, on n'a
oui.
aucune raison d'entendre parler de Crésus. Soit
voilà,
peut-être par le
ça.
Bouche à oreille, parce qu'on a dans son entourage quelqu'un qui est accompagné, mais sinon, c'est vrai que c'est pas systématique. Alors, vous avez effectivement, vous êtes engagé dans une procédure de surendettement sur les conseils de Crésus, c'est ça?
Bien sûr, tout à fait, oui.
Oui. Et donc, cette procédure, elle en est où aujourd'hui?
La procédure, c'est que la Banque de France a accordé le dossier, comment qu'on pourrait dire.
Irrecevable?
a rendu recevable la demande.
Oui.
Et ce qui fait qu'à ce jour, je n'ai plus, pour le moment, sous l'attente du jugement, je crois, je ne sais pas encore trop comment cela marche quand même,
oui.
Il y aura un jugement définitif.
C'est une décision. Alors, soit une décision, soit effectivement un jugement si ça passe devant le juge.
Voilà, c'est ça. Hein. Alors là, pour le moment, donc j'ai quand même un papier, une lettre que j'ai reçue recommandée de la Banque de France, bien sûr, qui me dit que de toute façon, je n'ai rien à payer pendant un an.
Au maximum.
Alors,
c'est, maximum. Alors, c'est juste une précision sur cette information de la Banque de France. Hein. Donc quand votre dossier est recevable, ce qui est le cas, donc on a reconnu votre situation de surendettement, mais aussi votre bonne foi qui n'a pas été remise en cause. Dans ce cas-là, effectivement, et provisoirement, c'est important de le rappeler aux auditeurs, il vous est fait interdiction de payer toutes les dettes qui sont nées avant la date de recevabilité. Donc toutes les dettes que vous avez mises dans le dossier de surendettement, celles-ci, voilà. Leur paiement est suspendu.
Voilà.
Et cette suspension, elle vaut jusqu'à un an.
Voilà.
Si la commission n'a pas trouvé une orientation pour votre dossier... Ben ça va un an et ça sera même deux ans puisque là il y a une réforme en cours et à partir du 1er janvier 2014 on passera même à deux ans. Mais en l'occurrence là effectivement vous êtes tenu de ne pas payer et d'ici quelques semaines sûrement la commission va vous proposer un plan de redressement si vous avez une capacité et à ce moment-là vous reprendrez les paiements si vous les acceptez. Donc ça voilà. c'est important. Donc vous en êtes vraiment au début de la procédure je dirais. Hein.
Voilà, bien sûr. Alors, d'après ce que me dit Crésus, normalement, les organismes avaient un mois pour se prononcer, pour donner leur décision aussi, je pense. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça.
Alors, normalement, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que la recevabilité, là, elle a été prononcée. Les organismes peuvent effectivement faire un recours, se prononcer contre la décision. Hein, il y a un délai qui est plus court hein, sur la contestation de la recevabilité, hein, qui est plutôt de 15 jours généralement. Hein. Donc le principe, c'est que si le créancier ne se manifeste pas, normalement, eh bien, la recevabilité est acquise et ensuite là, il y a une proposition de plan de redressement. Mais aussi, les créanciers peuvent contester cette proposition de plan ou ne pas y répondre et ça peut être un échec de la phase amiable, puisque là, on sera dans un premier temps dans une phase amiable.
D'accord.
Et ce sera à vous de réagir à ce moment-là, dans un certain délai également, très rapidement, pour demander la phase des mesures imposées et recommandées.
D'accord.
Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ce qui est important aussi pour Crésus, c'est de savoir quelles sont vos sensations, vos impressions et comment vous avez vécu ce dépôt de dossier et la décision qui a été prise. Comment vous...
Dans un premier temps, bon, ça m'a fait plus plaisir quand même. Au départ, à la base, c'est quand même une bonne nouvelle.
Oui, sûrement. Sûr.
Alors la seule question, je me dis, bon ben, ce qu'on avait dit au départ avec Crésus, ce que m'avait dit le responsable, m'avait dit, vous risquez de payer, mais vous risquez de payer. Même après, si je paye, je risque de payer, mais avec de longues échéances, d'après ce qu'on a bien voulu me dire.
Oui,
bien sûr.
Oui, alors après, le plan va être. La durée du plan va être.
Il peut être de zéro comme il peut être d'une certaine somme.
Donc il y a un calcul de votre capacité de remboursement qui est fait. Et en fonction de cette capacité, la commission va tenter d'apurer, de vous aider à apurer les créances, donc à hauteur de 12 000 euros. Hein, c'est ce que vous nous avez dit.
À peu près 12, 13.
Voilà. Donc on peut faire le calcul, sachant que le plan a une durée maximale de 8 années actuellement.
Hein. Voilà.
Voilà. Donc voilà. Alors, Jean-Claude, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, auditrices, un conseil.
Alors, pour ceux qui sont quand même dans ce cas-là, de bien prendre conscience quand il y a un problème de surendettement, que le dossier soit le plus clair et transparent possible, à mon avis. Ça a été mon cas parce que la Banque de France, quand j'y suis allé le premier jour, a accepté tout de suite le dossier. Il n'y avait aucune pièce manquante, surtout. C'était ça qui était important.
Oui.
Que ça soit des créanciers comme les avis d'imposition, les factures de téléphone, de loyer, les justificatifs de domicile, la carte d'identité. Il faut que le dossier soit complet. Voilà, je veux dire...
Donc avec Crésus, vous avez effectivement eu cette certitude d'avoir un dossier qui était bien monté.
Voilà. Bon, donc moi, personnellement, je suis un petit peu papier quand même. Pour ceux qui ne sont pas papiers, c'est quand même assez difficile. Je classe toujours quand même les papiers.
Oui, vous êtes ordonné.
Même le dossier de surendettement, c'est pas parce que je ne paye pas pendant un an que je vais tout mettre à la poubelle. Voilà quoi.
D'accord.
Donc, voilà, il faut quand même classer les litiges ainsi que les bonnes choses et les mauvaises choses.
Tout à fait, et vous avez raison, c'est important pour le suivi. Donc, le conseil, c'est aussi d'être bien ordonné, hein. Je dirais que c'est de mettre de l'ordre.
C'est important, je pense que c'est important. Hein, voilà. C'est important parce que c'est quand même un dossier qu'il faut suivre.
C'est un dossier qui n'est pas facile à monter, hein, surtout quand c'est la première fois qu'on le fait, et c'est souvent la première fois. Oui. Et donc, effectivement, une des conditions, c'est être ordonné. Allez voir Crésus parce qu'on sera sûrement de bons conseils pour vous aider à compléter utilement ce dossier et à rédiger la lettre d'accompagnement qui est quelquefois difficile à mettre sur le papier. Hein. Il faut faire une synthèse et je dirais que Crésus a l'habitude de pratiquer, donc n'hésitez pas. On vous remercie Jean-Claude pour votre témoignage.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà. Continuons à vous accompagner dans le cadre de cette procédure. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée. Merci.
Crésus. Crésus, la radio qui vous aide. Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Nous poursuivons nos témoignages et ce sera avec Marc, sachant que Marc est accompagné par Crésus, qu'il a effectivement déposé un dossier de surendettement, qu'il a été recevable à la procédure et un plan effectivement lui a été proposé qu'il a accepté, qui sera mis en œuvre à compter du 1er octobre de cette année. Et Marc, vous avez souhaité témoigner sur l'accompagnement Crésus. Bonjour Marc.
Oui, bonjour monsieur.
Voilà, alors expliquez un peu à nos auditeurs comment ça s'est déroulé avec Crésus.
Voilà, et donc j'étais surendetté, des dettes assez importantes, et n'y arrivant plus, les créanciers me tombent dessus régulièrement, je ne sais plus trop quoi faire. Et tout à fait par hasard, quelqu'un m'a parlé de Crésus, que je pouvais contacter, qui pouvait donner des renseignements, m'aider. C'est ce que j'ai fait. Et donc très rapidement, j'ai eu un rendez-vous téléphonique. Et donc je voudrais, dans mon témoignage, les remercier beaucoup parce que ils ont été très patients. Ils m'ont demandé de poser le problème, ce qui n'est pas évident parce que bon, on stresse un peu, on est paniqué un peu, qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens. Donc ils m'ont bien expliqué qui ils étaient. Et à ce moment-là, j'ai pu poser des affaires tranquillement avec eux. L'entretien a duré à peu près une heure et demie. Donc, je ne sais pas si vous savez quand même prendre une heure et demie de leur temps pour des gens qui sont bénévoles aussi. J'ai beaucoup apprécié. Et très rapidement, une réactivité vraiment importante, ils m'ont tout de suite dit ce qu'il fallait que je mette en place.
Les éléments importants.
Par rapport à ma banque, oui. Et aux créanciers.
Oui. Oui. Alors, ces éléments importants qui ont été mis en place, c'était lesquels, par exemple ?
Par exemple, comment faire un arrêt des prélèvements auprès de la banque, par exemple. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire, oui. Auprès de chaque créancier, et décider de rembourser à chacun de valeurs identiques, par exemple 20 euros à chacun, régulièrement, jusqu'à ce que et en même temps déposer le plan... à la Banque de France.
Voilà la demande de surendettement. Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle les mensualités de contact, hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça, oui, les mensualités de contact. Et je ne savais pas du tout qu'on pouvait le faire. Voilà.
Votre situation, elle imposait, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous n'aviez pas la capacité de faire autrement.
Donc... non, je ne pouvais pas du tout faire autrement. Pas du tout. Et ensuite, pour le plan de la commission, pour le courrier à faire, j'étais un peu perdu. Et là aussi, ils m'ont donné les grandes lignes un petit peu du type de courrier que je devais faire par rapport à ma situation.
D'accord. Donc là, vous parlez de la lettre d'accompagnement qui est jointe au dossier de surendettement, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Oui. Et c'est vrai qu'on est un peu perdu quelquefois parce qu'on ne sait pas par où commencer, quels sont les éléments qu'on doit mettre en avant.
On veut éviter les longueurs parce que bon, il faut pas non plus, il faut cibler ce qu'on a envie de dire. Et là, j'ai eu d'excellents conseils et qui ont été effectivement tout à fait bénéfiques.
Et donc, qui ont favorisé sûrement aussi la compréhension par la commission de votre situation
Oui, tout à fait.
Et la recevabilité de votre dossier.
Voilà, c'est ça. c'est ça. Et j'y croyais pas tellement parce que bon, c'était, il y avait quand même un endettement assez important. Hein.
De combien?
Oh, presque 40 000.
40 000 euros?
Mais pour moi, c'était beaucoup.
Ben ça, c'est une somme, 40 000 euros, hein, c'est clair.
Comment?
C'est une somme, alors tout dépend des revenus que vous avez aussi. Hein, c'est,
Oui, non, mais voilà. Alors, en fait, globalement, je devais rembourser ce que je gagnais par mois. Donc, c'était plus possible. Je
pouvais
plus
y arriver. 100% d'endettement?
Voilà, c'est ça, oui, 100%. Même, oui. Même, ouais, 110 même, d'ailleurs.
D'accord. Et on fait comment pour manger dans ces conditions?
Eh bien, on fait comment? Ben, on pioche jusqu'au dernier moment une société de crédit qui veut bien, et voilà. Alors, simplement, à l'occasion, je trouve que, malgré les réformes qui ont été faites, il était encore, jusqu'à pas longtemps, très facile de demander de l'argent à des sociétés avec très peu de renseignements, hop, on obtient quelque chose et c'est une catastrophe, quoi.
Et est-ce que vous pensez à ce titre, justement, que le registre national des crédits qui va être mis en place sûrement aura un effet bénéfique justement pour éviter le crédit de trop?
Moi, je pense, oui.
Oui. Et vous pensez,
oui,
que
c'est... Je pense, c'est discuté, mais je pense parce que ça évitera justement de monter dans cette escalade où quand on a le lait dans le guidon, ben on va pas forcément où on va, quoi.
Et vous pensez que vous auriez été mieux protégé s'il y avait eu ce registre?
Ben je pense, oui, parce que ça m'aurait évité de dépasser un taux d'endettement que j'aurais pas pu faire. Et puis, à ce moment-là, peut-être aller plus rapidement à la Banque de France faire au surendettement.
Oui, sûrement.
Ce que j'aurais dû faire il y a déjà longtemps, quoi.
Oui. Et là, en l'occurrence, donc, le plan a été acté, on va dire, puisqu'il entrera en vigueur à compter du 1er octobre.
Oui, oui.
C'est un plan qui est sur quelle durée?
Sur 8 ans.
Donc vous avez une durée maximum, en fait, hein, au niveau du plan de redressement.
Sur 8 ans, oui.
Ce qui est
intéressant, c'est qu'il y a un laissé pour vivre, enfin, je ne sais pas le terme exact, hein,
oui.
qui est quand même qui est viable, quoi, il n'y a pas de problème. Hein.
C'est-à-dire,
là, je vois que sur un salaire de, je peux dire les chiffres,
hein, oui.
C'est anonyme, de 1800 euros, j'ai un endettement de à peine 500 euros.
D'accord.
Donc pour moi, c'est je respire, quoi. Et alors, en même temps, cette démarche bien accompagnée par Crésus sur justement sur l'avenir, ça m'a beaucoup encouragé. Et maintenant, je sais qu'il y a des choses que je ne ferai plus jamais, ça c'est certain. Parce que quand on est sorti comme ça, c'était inespéré, en fait.
Donc on en tire des enseignements pour l'avenir.
Oui, oui, oui. Et en plus, je sais que Crésus est toujours disponible aussi pour m'aider à peut-être comprendre certaines choses, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, et ça, j'y crois, il n'y a pas de problème.
Oui, oui, mais c'est important, effectivement, aussi que nous puissions vous accompagner jusqu'au bout, je veux dire, du dossier, hein, parce que même quand le plan sera mis en place, il peut arriver à un moment donné que vous ayez des interrogations, ou qu'il y ait effectivement un point sur lequel vous voulez avoir une précision, et donc, effectivement,
oui,
vous pouvez toujours contacter Crésus pour avoir cet élément.
Voilà, tout à fait,
En plus, on
peut le faire par mail, et je trouve que ça... Enfin,
ça facilite.
Donc, je suis vraiment très satisfait. Et justement, je voulais profiter de l'antenne pour dire aux personnes qui sont surendettées, qui paniquent un peu, tout ça, etc., avant de faire des bêtises ou taper aux mauvaises portes, c'est carrément d'aller auprès de Crésus, auprès de votre organisation,
Oui.
Et je crois qu'il faut vraiment le faire, quoi.
Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut frapper à la bonne porte.
Oui. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, on ne sait pas, on est angoissé et tout ça, et on ne peut pas y arriver.
Bah très bien, Marc, donc ça c'est le mot de la fin. Alors, c'est allez voir Crésus si vous avez une difficulté financière, n'hésitez pas.
Oui, tout à fait.
Ne perdez pas de temps.
Oui, et sans problème, parce qu'au départ, c'est eux qui dirigent vers quelle direction nous pouvons aller. C'est pas forcément la Banque de France, ils estiment que c'est pas forcément s'il y a autre chose. Pour mon cas, ça a été très vite ciblé et ils ne se sont pas trompés.
Eh bien voilà, donc tout est dit, hein. Donc une vision juste, c'est ça qui est important, et surtout ne pas tarder. Hein. Voilà, Marc, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage.
Merci beaucoup et bon courage pour tout le monde.
Merci,
enfin.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide.